L'Afrique en marche, une émission présentée par Spoutnik Afrique.
Chers auditeurs de Radio Maliba FM à Bamako, mesdames et messieurs, bonjour. Je m'appelle Kamal Louadj, je suis journaliste correspondant à Radio Spoutnik Afrique et animateur de l'émission L'Afrique en marche. Dans cette nouvelle édition de L'Afrique en marche, nous allons analyser avec Hassan Boubakri, professeur de géographie et des études de migration à l'université de Sousse en Tunisie et président de l'ONG Centre de Tunis pour la migration et l'asile, de la question migratoire vers l'Europe à travers les pays maghrébins. Nous évoquerons ses causes profondes et les moyens de l'endiguer. A tout de suite sur les ondes de Maliba FM à Bamako. La chef du gouvernement italien, Giorgia Meloni, a appelé l'Union européenne à se mobiliser afin d'éviter la banqueroute de la Tunisie, dont les négociations avec le FMI relatives à un prêt d'1,5 milliard de dollars sont bloquées depuis des mois. Nous risquons une invasion si l'Europe ne bouge pas, a-t-elle averti. Selon Giorgia Meloni, les chiffres des migrants ont triplé par rapport au premier mois de 2022. Et Madame Meloni avait également menacé de faire appel à l'OTAN pour patrouiller à la frontière libyenne. Or, ce bras de fer entre Rome et Bruxelles sur la question migratoire, sur fond de la crise politique et économique en Tunisie, cache une réalité bien plus complexe. Celle-ci ne peut être comprise et résolue que dans un cadre plus global, tenant compte de tous les facteurs, aussi bien historiques, socio-économiques, sécuritaires et politiques l'ayant provoqué. En effet, la scène migratoire méditerranéenne a enregistré des bouleversements de grande ampleur liés fondamentalement aux retombées des guerres en Syrie, en Libye, en Afghanistan et en Irak. 2,5 millions de traversées des frontières maritimes et terrestres européennes ont été enregistrées entre 2008 et 2013, dont 80, soit 2 millions entre 2014 et 2020. Le transit par la Turquie en direction des Balkans et par le Liban en direction de Chypre représente 60% des flux enregistrés entre 2008 et 2020. Les deux bassins méditerranéens oriental et occidental, directement concernés par les traversées à partir des quatre pays de l'Afrique du Nord, représentent les 40% restants. 6,5% à partir du Maroc et de l'Algérie en direction de l'Espagne et très rarement la Sardaigne et 33,5% à partir de la Libye et de la Tunisie en direction de Lampedusa, de la Sicile et très rarement vers Malte. Ces flux ont constitué la crise migratoire la plus aiguë depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Les effets de la guerre en Libye, déclenchée par l'intervention de l'OTAN sous instigation française en 2011, se sont étendus aux États du Sahel. Les réseaux criminels de trafic de migrants et de traite des êtres humains ont transféré des centaines de milliers de migrants africains vers la Libye principalement, puis vers l'Europe durant cette décennie de 2011-2020. En plus des effets directs du conflit en Libye, même les attaques terroristes et l'insécurité croissante dans les pays du Sahel sont des ingrédients supplémentaires qui alimentent les flux migratoires vers les États d'Afrique du Nord, puis vers l'Europe. Alors, pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir pour cette nouvelle édition Hassan Boubakri, professeur de géographie et des études de migration à l'université de Sousse en Tunisie et président de l'ONG Centre de Tunis pour la migration et l'asile. Professeur Hassan Boubakri, bonjour et merci de nous avoir accordé cet entretien.
Bonjour Monsieur Lawaj, à mon tour je vous remercie infiniment pour votre attention et pour l'honneur que vous faites de d'intervenir sur les ondes ou sur les réseaux de Spoutnik, l'agence Spoutnik pour les informations.
Alors la première question, Monsieur Boubakri, quelles sont les raisons ayant aggravé ces derniers mois la crise migratoire vers l'Europe via les pays du Maghreb? Et comme cette polémique qui a éclaté ça fait quelques jours, est-ce que l'octroi d'un prêt d'un milliard et demi de dollars par l'UFMI à la Tunisie est susceptible d'en venir à bout? Qu'en pensez-vous?
Bon, alors, évidemment, bon, la Tunisie, n'oublions pas que la Tunisie fait partie de l'Afrique du Nord et que l'Afrique du Nord fait partie, c'est le voisinage sud de l'Europe. Mais en même temps, l'Europe est notre voisin du Nord. Donc nous, on se, par souci en quelque sorte de nord-africanisme, de nord-africain centrisme, on peut dire que nous aussi, nous avons notre voisinage sud qui est l'Afrique subsaharienne et nous avons notre voisinage nord qui est l'Europe. Donc, en d'autres termes, nous avons des enjeux et des défis en matière de migration. Pour des raisons multiples. D'abord, la géographie, je veux dire la loi de la géographie, qui fait que nous sommes, la Tunisie, mais l'Afrique du Nord en général, nous sommes quand même les voisins de l'Europe et nous séparent de l'Europe parfois quelques, comme pour le Maroc, Gibraltar, c'est quelques 14 kilomètres, ou pour Lampedusa, ou la Sicile, c'est une centaine de kilomètres. Ouais. Donc, je veux dire, l'histoire de la mobilité, des échanges humains entre, d'un côté, l'Afrique du Nord et, de l'autre côté, l'Europe, et, deuxièmement, entre l'Afrique du Nord et le sud du Sahara, la région du Sahel, revient à l'Antiquité. Rappelez-vous qu'il y avait le commerce des caravanes, tous les échanges humains économique depuis l'Antiquité entre l'Afrique du Nord et l'Afrique subsaharienne, comme entre l'Afrique du Nord et l'Europe du Sud avec les empires romains, grecs, etc. Donc aujourd'hui, parce que nous avons beaucoup de moyens d'information, nous sommes envahis par les informations, par les images, on a l'impression que c'est nouveau. Peut-être c'est nouveau au niveau, je veux dire, du nombre, mais ce n'est pas nouveau au niveau des phénomènes et des échanges dans les deux sens. Donc, c'est normal que l'Afrique du Nord soit un peu la région, la plateforme d'échange entre, d'un côté, elle-même et l'Afrique et l'Europe, et de l'autre côté, avec l'Afrique subsaharienne. Évidemment, je veux dire, les changements stratégiques, les basculements, en quelque sorte, au niveau des contextes géostratégiques, sécuritaires, politiques, dans la région, fait que, je veux dire, des facteurs structurels de longue durée et peut-être de moyenne durée aboutissent aujourd'hui à ce que nous ayons cette crise migratoire aiguë à laquelle est confrontée l'Afrique du Nord et la Tunisie dans ce cas-là. Quand je dis facteurs structurels, il y a ce qui est classique et connu, c'est quand même le sous-développement et toutes les difficultés qu'a l'Afrique, les pays d'Afrique en général, y compris parce que l'Afrique du Nord, c'est une région en développement aussi, c'est pas une région développée.
Nous allons y revenir dans la deuxième partie de l'entretien sur ces problèmes-là.
Voilà, d'accord. Donc pour le moment, on insiste, moi je dirais que en gros, l'élément central qui fait que nous sommes confrontés à autant de migrations irrégulières est lié à l'accumulation des effets de l'externalisation et de la fermeture des portes de l'Europe à la mobilité venant du Sud. Nous partageons une mer. Il y a eu la déclaration de Barcelone en 1994 qui parlait d'une zone de prospérité partagée. Nous sommes à 50 ans, je crois, pas loin de... Non, 40 ans. Nous sommes à 40 ans de Barcelone. 94, dans combien?
Presque.
23... Oui, c'est ça, 30 ans plutôt. 30 ans, 3 décennies de Barcelone. Et nous ne voyons pas pointer le nez de cette prospérité partagée. L'écart reste grand entre les revenus de l'Européen et les revenus de la population au sud du Sahara, au sud de la Méditerranée. Donc c'est normal que nous ayons cet appel.
Et puis on peut même rajouter que, même rappeler que les accords qui se sont suivis sur l'association avec l'Union européenne et sur le plan économique, alors qu'il contient aussi la question de la mobilité, ils n'ont été respectés que sur le plan commercial, à sens unique, c'est-à-dire de l'Europe vers le sud de la Méditerranée, et pas à l'inverse, et la question de la mobilité, pas du tout respectée.
Oui, justement, parce qu'en fait, j'allais y arriver, c'est-à-dire nous avons la déclaration de Barcelone, après les accords d'association, des accords de réadmission à la fin des années 90, entre d'un côté le Maroc et la Tunisie, et de l'autre côté l'Italie, l'Espagne et les pays européens. Depuis la signature de ces accords de réadmission, nous avons entamé une phase de ce qu'on appelle l'externalisation, c'est-à-dire le transfert de contrôle des frontières extérieures de l'Europe vers les pays tiers du voisinage sud. Et le résultat, c'est que d'année en année, de décennie en décennie, on a vu se fermer, donc en quelque sorte, ces accords d'association, ils ont permis une liberté de faire du commerce et des échanges économiques, commerciaux, mais ils n'ont pas abouti à une liberté de circulation, ce qui n'est pas normal. Je rappelle que la migration irrégulière vers l'Europe, elle a commencé à partir du moment où le système Schengen a été mis en place. Ça, c'est vraiment, c'est comme 1 plus 1 égale 2. C'est indiscutable. Et depuis cette période, je veux dire, l'Europe ne cesse de fermer ses portes, de rendre les conditions ou les possibilités d'arrêt de séjour et d'entrée de plus en plus difficiles.
D'accord.
Et en parallèle, le résultat, c'est que l'immigration irrégulière s'est développée et les gens ont cherché par tous les moyens, par toutes les routes pour atteindre l'Europe, parce que ça fait partie, je veux dire, des logiques de l'évolution des relations entre les deux pays, entre les deux blocs, je veux dire, les deux régions.
D'accord. Alors, maintenant, j'aimerais bien quand même rappeler un fait qui est très important, c'est celui concernant la Libye. Alors, la Libye est traditionnellement considérée comme un pays de destination pour l'immigration. Dans l'ensemble, la circulation, comme vous l'avez rappelé à juste titre, et la mobilité ne sont pas nouvelles dans la région subsaharienne et nord-africaine. Et selon les données de l'Organisation internationale pour l'immigration en 2011, il y avait environ 2,5 millions de travailleurs migrants en Libye avant le début du conflit, c'est-à-dire de l'intervention de l'OTAN en Libye, et près de 800 000 ont fui lorsque le conflit a éclaté, ce qui a laissé un vide important dans des secteurs clés de l'économie du pays. Et il faut aussi rappeler une chose, c'est que la population de l'époque se composait, c'est-à-dire des migrants, se composait principalement de personnes originaires des pays voisins, mais comprenait également un certain nombre de ressortissants des pays d'Asie, d'Europe de l'Est, qui avaient cherché du travail en Libye au fil des années. Alors, la question ainsi, n'est-il pas évident que c'est la destruction de l'État libyen en 2011 qui a fait exploser le phénomène migratoire vers l'Europe ? Et n'est-il pas plus judicieux de faire cesser les armes dans ce pays et veiller à sa reconstruction pour mettre un terme à ce fléau au lieu de dépenser de l'argent pour contenir les migrants sur son sol dans le cadre de cette politique d'externalisation ou comme sur celui des voisins maghrébins ?
Oui, là, vous évoquez une question que je traite depuis au moins deux décennies, parce que, comme vous l'avez dit, la Libye, n'oublions pas, avant 2011, était le premier pays d'immigration en Afrique. Il était le premier pays.
Absolument.
Ce n'est qu'après 2011 que la Côte d'Ivoire et la République sud-africaine sont devenus les premiers pays. Nous avons l'Afrique du Sud qui est maintenant le premier pôle d'immigration, de destination, suivi par la Côte d'Ivoire et peut-être, d'autres pays qui reçoivent surtout des réfugiés. Donc la Libye, c'est normal, l'ex-ministre des Affaires étrangères de la Libye, Abdeslam Triki, qui avait déclaré en 2008 ou 2009, je crois, que la Libye accueillait 2,5 millions de migrants. Ces migrants venaient, comme vous l'avez dit, essentiellement des pays voisins arabes d'ailleurs. Les plus grandes communautés, c'était les Égyptiens, c'était les Soudanais, les Tchadiens et pas mal aussi de pays d'Afrique subsaharienne parce que, et bien sûr, et même, je veux dire, depuis les années 70, pour les Asiatiques, les Philippins, les Turcs, les Bengalais, bon, ils étaient nombreux, les Syriens, les Palestiniens, mais la Libye s'est ouverte à l'Afrique pour deux raisons. Les raisons historiques, d'abord, n'oublions pas que la diaspora libyenne qui était dispersée jusqu'au lac Tchad, après l'invasion de la Libye par l'Italie en 1911, a donné lieu à des diasporas qui étaient installées dans le voisinage sahélien de la Libye. Et après l'indépendance de la Libye, une partie de ces populations sont rentrées en Libye tout en gardant des réseaux familiaux, des familles matrimoniaux. On est allé même jusqu'à trouver des Tchadiens d'origine libyenne qui font partie de la diaspora tchadienne à Paris et dans les pays, surtout, je veux dire, les pays en France en général. Donc, c'est normal que la Libye soit ouverte sur l'Afrique. Et à cela s'ajoute l'effet d'embargo quand le régime de Kadhafi s'est retrouvé en face du monde. Le monde arabe, il a appliqué l'embargo. Le monde occidental a appliqué l'embargo, mais pas tous les pays africains. C'est pour ça qu'il a ouvert les portes de la Libye, je veux dire, aux Africains. Mmh. Donc, en quelque sorte, avant 2011, il y a une forte tradition, je veux dire, de migration en Libye, ajoutée au fait que, essentiellement, parce que la Libye est un pays de rente pétrolière, et pour sa construction dans les années 70-80, c'est la main-d'œuvre étrangère tchadienne, soudanaise, essentiellement égyptienne, mais aussi de plus en plus subsaharienne, qui s'est retrouvée en Libye. Alors, arrivé en 2011, je veux dire, les subsahariens se sont retrouvés, comme on dit, entre le marteau et l'enclume. Ils étaient considérés comme des mercenaires par ce qu'on appelle les révolutionnaires, c'est-à-dire les rebelles, et ils étaient poussés par Kadhafi pour partir en Italie, pour faire pression sur Berlusconi, sur l'Italie. C'est ce qui fait que nous avons eu à peu près 35 000 arrivées de migrants subsahariens à Lampedusa en 2011. Mmh. Et puis en 2012-13, ça s'est calmé. Ça s'est calmé, il n'y avait pas beaucoup. Et à partir, d'ailleurs on le voit, à partir de 2014, le nombre des migrants qui ont traversé la Méditerranée centrale pour aller à Lampedusa, essentiellement.
La Méditerranée centrale, c'est-à-dire via la Tunisie et la Libye.
Et la Libye. Donc, le nombre a explosé, il est monté à 180 000, 170 000. Pourquoi ? Parce que, on le voit, c'était clair. C'est vraiment, comme on dit, on n'a pas besoin de photos. 2014, la reprise de la guerre civile en Libye. Il a abouti à la destruction de l'État. L'État a été détruit déjà depuis 2011, mais l'effet de la destruction de l'État libyen à cause de l'intervention occidentale, et les Occidentaux, ils le reconnaissent, aussi bien Tony Blair que Macron dernièrement, quand ils ont dit notre faute, je veux dire, notre erreur est monumentale en Libye parce qu'on a cassé, on a détruit la Libye, ce qui fait que ce sont les milices et les groupes armés qui tiennent la Libye dans un contexte d'économie de guerre. Et dans ce cas-là, de quoi ils vont vivre quand il n'y a plus de bataille, il n'y a plus d'argent pour payer la bataille, je veux dire, et les combats. Ce sont, je veux dire, la traite des personnes et le trafic de migrants qui deviennent la principale source des milices.
Mais donc, c'est-à-dire que, mais on prend donc d'un point de vue primordial, quand la Libye recevait 2,5 millions de migrants, bien sûr, casser un pays comme ça, il faut pas après par la suite se plaindre ou s'offusquer du fait qu'il y a des milliers de gens qui partent vers le nord, parce que il faut bien qu'ils vivent.
Totalement, oui, bien sûr, parce que si la Libye était restée stable. Même aujourd'hui, si demain la Libye devenait stable, vous pouvez être sûr qu'elle va faire appel et elle va accueillir beaucoup de travailleurs migrants d'Afrique subsaharienne et que peut-être 80% des subsahariens qui veulent partir en Europe aujourd'hui, fuyant la guerre, fuyant les abus, on est arrivé quand même à des situations où des milliers de femmes et de migrants qui sont asservis, violés, qui sont victimes d'abus et d'exploitation sexuelle et d'exploitation pour le travail pour les hommes. Donc c'est normal que si la Libye se stabilisait, elle retiendrait ses populations, et si la Libye a été détruite, le résultat automatique, entre autres, c'est vraiment, je veux dire, l'ouverture et de la porte de la Libye. Et aujourd'hui, nous avons moins que ça, parce que vous avez eu, on a eu 2 ou 2,5 millions avant 2011, nous avons seulement 800 000 maintenant qui restent en Libye. Le reste, ils arrivent en Libye et ils quittent à travers les réseaux de trafic de traite et des passeurs vers l'Italie.
D'accord.
Et le problème, c'est qu'une fois qu'ils arrivent en mer, ils sont repoussés ou interceptés par les gardes-côtes libyens, ils sont ramenés en Libye. Ramenés en Libye, ils viennent en Tunisie. Peut-être tout à l'heure, on peut arriver. Pourquoi
oui.
Il y a eu cette crise migratoire en Tunisie par rapport aux subsahariens avec le discours
absolument.
Du président, tout
c'est
cela.
Justement, j'en viens avec la prochaine question. Parce que bon, il y a les chefs d'État occidentaux, notamment européens, Macron et autres, qui reconnaissent avoir que leur pays ont commis des fautes monumentales en détruisant la Libye. Mais il y a quand même une chose sur laquelle on devrait se focaliser. Parce que selon des experts sécuritaires, les puissances occidentales, notamment européennes, n'ont pas intérêt à ce que la situation change en Libye. Et le fait est qu'ils profitent du pétrole et du gaz libyen vendu à prix cassé sur le marché noir par les groupes armés et les milices qui contrôlent les gisements. Il y a quand même une espèce d'hypocrisie de déclarer comme ça et en même temps de faire en sorte qu'il n'y ait pas de changement politique dans le pays pour qu'il puisse être donc stabilisé. Alors, qu'en pensez-vous? Et dans ce cas, de quel droit les Européens qui profitent du pillage de la Libye insistent-ils sur la nécessité de mettre en place des centres de rétention dans les pays maghrébins, jouant ainsi aux pompiers pyromanes?
Écoutez, moi je ne veux pas rentrer un peu dans des polémiques. Moi je voudrais faire entendre la parole académique et des évidences, des données, des faits. Ce qu'on voit, je veux dire, même au niveau politique, nous avons des déclarations même de l'ONU de beaucoup de partenaires de la Libye qui disent qu'il y a des États, des partis qui ne veulent pas que la situation se stabilise en Libye. Mmh. Alors, après, vérifier qui a besoin, je crois que ça, c'est un jeu, je veux dire, diplomatique, un jeu de relations internationales et un jeu d'intérêt où personne... Tout le monde a son diable dans sa poche, comme on dit. Donc, aussi bien, je veux dire, les Occidentaux que les pays du Golfe, que l'Algérie, que la Russie, que tout. Ça, c'est normal, je veux dire, dans un jeu de. Surtout pour un pays aussi riche. Moi, j'ai fait à un certain moment un suivi des relations au niveau migratoire entre l'Italie et la Libye depuis. La fin, depuis l'embargo, on s'est rendu compte que, je veux dire, il y avait un jeu entre Kadhafi, Berlusconi et l'Italie en général. À chaque fois que l'Italie voulait avoir plus de... renforcer ses intérêts économiques à travers l'ENI, je veux dire le pétrole, tout cela, ils lâchaient et ils appuyaient Kadhafi malgré l'embargo. Donc, ça c'est clair que c'est sûr que des pays peut-être n'ont pas besoin, certaines puissances, je veux dire, ils s'en foutent de la question migratoire et ont besoin un peu de tenir la Libye.
Non, mais parce que justement, c'est-à-dire le maintien de cette situation et le pillage, c'est-à-dire des ressources qui pourraient être exploitées dans le pays pour la reconstruction et donc le maintien des populations et même l'accueil de migrants, c'est ça qui fait que la chose explose.
Ça, je veux dire, à partir du moment où il y a certaines puissances qui ne veulent pas qu'il y ait stabilisation de la Libye, la situation va continuer et les groupes armés et les milices vont continuer à faire du trafic aussi bien de migrants que du pétrole,
oui,
que des armes, que de la drogue, tout ce qui est illicite. Je veux dire, ça va, c'est en parallèle. Et bon, on ne doit pas uniquement, je veux dire, c'est comme pour la Tunisie ou pour l'Afrique, uniquement jeter la pierre aux grandes puissances, parce que ce sont les Libyens qui ont appelé l'OTAN quand même à intervenir. Mmh. Moi, je le dis, je le rappelle à toutes les fois, je le rappelle aux Libyens, aux amis libyens, aux frères, en leur disant, c'est vous qui avez appelé l'OTAN pour qu'elle intervienne. Donc, il faut que toutes les responsabilités soient mises, d'accord, sur la table. Mais c'est normal, je veux dire, que cette situation d'instabilité aboutit à un maintien de la pression migratoire, un maintien, je veux dire, les gens sont obligés, quand ils arrivent en Libye, sont obligés de partir parce qu'il y a énormément de formes d'abus et d'atteinte aux droits humains, et aux droits humains surtout des migrants, des réfugiés et des demandeurs d'asile qui arrivent en Libye. Et c'est normal que de l'autre côté, nous avons,
d'accord,
de plus en plus de gens qui partent.
Une dernière question pour cette première partie, M. Boubakri. Dans le contexte de la crise alimentaire inflationniste qui frappe le monde entier suite à l'effet boomerang des sanctions unilatérales occidentales contre la Russie, les pays d'Afrique du Nord et d'Europe doivent-ils, à votre avis, se préparer à des vagues plus massives de migrants?
Écoutez, ça c'est un peu de la science-fiction, mais bon, si on dit, je veux dire, tous les ingrédients d'une pression migratoire de départ, push factor, mm-hmm, pour partir de l'Afrique sont là. Nous avons les causes structurelles classiques, la pauvreté, le sous-développement, la corruption, la détérioration des services publics partout, que ce soit même en Afrique du Nord ou en Afrique subsaharienne. Mmh. Et nous avons en plus le réchauffement climatique. Vous voyez que par exemple
donc
en Afrique
du Nord, c'est-à-dire que la situation actuelle n'est qu'un facteur d'aggravation, mais ce n'est pas la cause structurelle de...
Et on peut ajouter à cela ce qui se passe, je veux dire, l'effet de la guerre en Libye et le terrorisme et l'insécurité au Sahel qui ne cessent de s'aggraver, et ça ne peut être qu'un facteur qui alimente, mmh, je veux dire, et ça c'est un autre effet, l'effet, je veux dire, en Libye même et l'effet sur le Sahel. Tout cela, je veux dire, aboutit à une multiplication des facteurs et un renforcement des facteurs qui poussent les populations à partir. Vous voyez aujourd'hui ce qui se passe dans la zone des 3 ou 4 frontières entre le Cameroun, le Tchad, le Niger et le Burkina Faso. Nous voyons le Nigeria avec Boko Haram. Nous voyons les groupes armés maintenant qui commencent à contrôler des pans entiers du territoire malien, burkinabé, et même parfois, je veux dire, nigérien, et ça aboutit, ça touche les communautés rurales qui cherchent à partir dans les villes, et quand ils ne trouvent pas dans les villes les conditions pour s'installer, les bonnes conditions, ils vont partir. Donc une partie, pas toute, mais une partie de l'insécurité et des causes de départ aboutit en Afrique du Nord. Ça c'est, je veux dire, indéniable. Mmh. Tant que, donc, je veux dire, la Tunisie se trouve, entre autres, mais l'Afrique du Nord en général, se trouve dans une situation quand même qui est intenable. C'est-à-dire, nous avons des arrivées et de l'autre côté, nous avons une fermeté des portes, donc des frontières, avec l'externalisation, le contrôle, etc. Le résultat, c'est que, en quelque sorte, l'Afrique du Nord devient une prison à porte ouverte, aussi bien pour les populations subsahariennes qui ne peuvent plus aller en Afrique, enfin en Europe, que les populations subsahariennes qui arrivent en Afrique du Nord, par les routes, je veux dire, sahariennes surtout, et après, ils ne peuvent plus partir en Europe, ils restent.
Mais ce problème, restent, je dirais qu'il est même le même, même pour les populations de ces pays eux-mêmes. Même voilà, pour les Marocains, les Algériens, les Tunisiens, les Libyens, même
sûr,
pour eux, le problème se pose de la même façon.
Les deux. Oui, ouais. Oui, les deux. Quand j'ai dit zone ou bien une région sous forme de prison ouverte, parce que plus, je veux dire, plus personne, nous sommes tous assignés
absolument,
à rester
absolument,
ici, à ne plus partir de manière régulière. C'est pour ça que, je veux dire, si l'Europe ne fait pas un effort cette année ou l'année prochaine, enfin, vraiment dans l'immédiat, pour ouvrir les portes, je veux dire, d'une mobilité, d'une circulation organisée, moi je suis sûr que
d'accord,
la situation ne peut que s'aggraver.
Voilà. D'accord.
Je rappelle que mon invité est aujourd'hui Hassan Boubakri, professeur de géographie et des études de migration à l'université de Sousse en Tunisie et président de l'ONG Centre de Tunis pour la migration et l'asile.
La première question, l'Afrique subsaharienne est devenue depuis le milieu des années 90, comme vous l'avez souligné dans la première partie du XXe siècle, une zone fort pourvoyeuse de migrants pour tous les pays de l'Afrique du Nord, y compris la Tunisie. Et les facteurs essentiels de cette dynamique qui ont joué un rôle déterminant dans ce développement migratoire, c'est l'explosion démographique, l'élargissement de l'écart de développement avec les pays de l'Afrique du Nord et avec les pays développés, c'est-à-dire de l'autre rive de la Méditerranée en Europe, l'éclatement des guerres civiles et ethniques en Afrique orientale, centrale, occidentale, etc. Alors, tous ces facteurs ont eu pour conséquence des migrations forcées ou volontaires à destination aussi bien des pays du voisin régional en Afrique de l'Ouest, comme le Mali, le Sénégal, le Nigeria par exemple, ou vers les pays de l'Afrique du Nord. Alors, la question... Sans s'attaquer à tous ces problèmes et ces fléaux, est-il possible de poser correctement le problème de l'immigration, aussi bien légale que clandestine, afin de lui apporter les solutions adéquates à même de l'éradiquer totalement?
Là, vous posez des questions de fond. Il y a un adage qui disait que, il me semble, c'était qui, j'ai oublié, Alfred Sauvy ou Pierre-Georges, j'ai oublié, qui a dit quand les populations ne trouvent pas les richesses, ils vont les chercher ailleurs. Ils vont chercher là. Donc, je veux dire, la loi, surtout dans un monde globalisé, je veux dire, les informations sur les opportunités de travail, sur les routes, sur les stratégies, les trajectoires, sur les opportunités, sur les trafics, sont maintenant à la disposition de tout le monde, qu'on ne peut que s'attendre à une multiplication des migrations dans le monde. Faut pas oublier que, je veux dire, il y a une accélération du nombre de migrants dans le monde. Maintenant, on n'est pas loin de 300 millions de personnes qui vivent hors de leur pays d'origine. Et que aussi, en même temps, il y a une explosion, ce qui est encore plus dramatique, du nombre de réfugiés demandeurs d'asile à cause de toutes les formes de crise, je veux dire, qui aboutissent à l'immigration forcée. Crise politique, ethnique, en Afrique, on a, et puis bien sûr environnementale, dont on a parlé, peut-être sur lesquelles on reviendra.
Absolument,
donc,
oui.
On peut dire qu'elles sont toujours là et se renforcent. Alors le résultat, c'est que, enfin je veux dire, la réponse doit être comment ? Est-ce qu'on peut traiter d'abord ces causes structurelles? Un. Et deuxièmement, si on ne peut pas les traiter, comment au moins administrer, gérer leurs conséquences? C'est ça, je veux dire, les pays du monde, y compris l'ONU, moi je ne crois pas que le Global Compact permettra de résoudre ça. C'est peut-être une façon juste de, en quelque sorte, de lisser... les relations entre les pays riches et les pays en développement, les populations en développement, mais je ne crois pas que le Global Compact aboutira à une meilleure...
Le Global Compact, c'est-à-dire c'est cette situation de globalisation de l'économie...
Non, c'est quand même...
Non.
Le Global Compact, c'est le compact mondial de la migration qui a été signé en 2018 à Marrakech.
D'accord.
Depuis New York, vous avez un Global Compact, le pacte mondial pour les migrations et le pacte mondial pour les réfugiés.
D'accord.
Qui a été adopté par l'Assemblée des Nations Unies, l'Assemblée Générale, en décembre 2018. C'est juste pour un peu, comme je vous ai dit, un peu faciliter les relations ou la manière de gestion, mais il n'attaque pas le fond du problème, il essaie de gérer les conséquences des migrations.
C'est comme un médecin qui s'occupe des symptômes de la maladie, mais pas des causes qui la génèrent.
Voilà, et les causes qui génèrent, ils sont pas gérées, ils sont pas, comment on dit, discutées dans ce pacte global, parce que je veux dire, au fond, c'est les écarts de développement, c'est les termes de l'échange, c'est permettre à l'Afrique, je veux dire, d'exploiter ses richesses, de garder une bonne partie des richesses, et ça, je veux dire,
transformer localement surtout.
Voilà, et donc là, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est la responsabilité des grandes puissances qui dominent, mais aussi des Africains. Il ne faut pas jeter la pierre uniquement aux grandes puissances, la Russie ou la Chine, parce que c'est nous qui permettrons ça. C'est comme pour la Libye. Mm-hmm. C'est les Libyens qui ont ouvert la porte à la destruction de leur pays. Et nous, les Africains, depuis 50, 60 ans, jusqu'à quand on va dire que c'est le post-colonialisme, c'est l'impérialisme? Parce que nous laissons faire. Donc, je crois que c'est une responsabilité d'abord des Africains de chercher à traiter cette question, de traiter, je veux dire, les causes. Mais en même temps, je veux dire, les grandes puissances, leur politique et la façon dont ils exploitent et ils pillent les ressources du continent aboutissent à des conflits internes dans ces pays pour une compétition sur les ressources. On le voit aussi bien entre les sédentaires et les pasteurs, regardez comment, par exemple, le pétrole nigérian, il est parfois détourné par les populations locales, parce que ce sont des populations et des régions qui voient passer les oléoducs, mais ils ne profitent pas, des richesses nationales. Et ces richesses nationales sont exploitées par les élites centrales, africaines, et en même temps, en alliance avec les grandes puissances. Donc, si on ne règle pas cette question, je veux dire, on ne peut pas avancer, et nous aurons de plus en plus de migrants, parce que ces causes alimentent. Absolument. En quelque sorte, les conflits alimentent la pauvreté, alimentent... Mais en même temps, on dirait que... Je veux dire, moi, c'est ce que j'ai dit par rapport à l'Afrique du Nord. Je veux dire, c'est pour ça que je dis qu'il ne faut pas que l'Afrique du Nord clone ou le copie les politiques migratoires de l'Europe. C'est-à-dire, on crie et on dénonce la manière dont nos propres migrants sont traités en Europe, mais on traite en Afrique du Nord les ressortissants des pays tiers d'Afrique subsaharienne de la même manière que les Européens traitent nos migrants. Ce n'est pas normal. Mmh. Donc, vous voyez que le problème n'est pas seulement, je veux dire, européen ou la domination, c'est clair, mais il y a un manque de prise, je veux dire, en main de notre sort, de notre propre destin par nos dirigeants, par nos élites et par nos pays et nos populations.
Et dans ce cas-là, Monsieur Boubekri, des puissances comme la Chine et comme l'Inde, en prenant les pays qui sont partis dans les années 60, dans les mêmes conditions que beaucoup de pays africains qui étaient au lendemain de leur indépendance. Pourquoi ceux-là ont beaucoup avancé et chez nous, c'est pas le cas? Et est-ce que ces deux pays qui sont restés pour une longue durée comme des pays non alignés, c'est-à-dire des pays en voie de développement, ne peuvent pas justement servir d'exemple aux pays africains pour sortir de cette léthargie concernant le développement qui empêche les populations de s'épanouir chez eux?
Moi, je crois que dans ce cas-là, et je vais donner un exemple, je crois, pertinent. Il n'y a pas plus pertinent que lui. C'est notre propre responsabilité. Regardez le Sud-Soudan. Moi, je prends l'exemple du Sud-Soudan. C'est une partie du Soudan qui a été appuyée par les grandes puissances occidentales, par Israël, pour qu'ils demandent leur indépendance. Ils ont été appuyés et le traité de paix signé entre Jean Garang et les autorités soudanaises en 1986, je crois, il s'est basé sur l'organisation d'un référendum en 2011 pour l'autodétermination. On est arrivé en 2011, le Sud-Soudan est devenu indépendant. En 2014, et depuis jusqu'à aujourd'hui, une guerre civile a éclaté entre les deux chefs historiques, Salva Kiir et Hawlett Machar, interne
ouais.
et qui a abouti à 3 ou 4 fois plus de réfugiés, de demandeurs d'asile que pendant toute la période de la guerre de libération, je veux dire du front de libération, et la guerre entre l'État soudanais et le front de Sud-Soudan. Donc, pour vous dire, il n'y a pas un meilleur exemple. Un État jeune qui a été appuyé par les grandes puissances, tout de suite, il bascule dans la guerre civile. Aujourd'hui, on dit qu'il y a, je crois, 50-60 kilomètres uniquement de route goudronnée au Sud-Soudan. Et que la population, je veux dire, la guerre civile est tellement sévère, je veux dire, et dramatique que, je veux dire, les populations ne peuvent plus même revenir derrière. Regardez le cas de l'Afrique, la République centrafricaine. Je veux dire, le conflit entre les Séléka et les Balaka. Mm-hmm. Je ne sais pas si vous connaissez
ça.
Entre les musulmans et les chrétiens. Les musulmans, ils ont commencé à persécuter les chrétiens. Et de l'autre côté, les chrétiens, ils ont commencé à persécuter les musulmans. Et tous les deux, je veux dire, tous les deux clans, comme au Sud-Soudan, pratiquent ce qu'on appelle la terre brûlée. Donc, dans ce cas-là, comment voulez-vous? Est-ce que, je veux dire, le cas, ces deux cas sont le résultat de grandes puissances? Non, je ne crois pas. Peut-être derrière, mais bon, la Chine, je ne sais pas. Mais je veux dire, les grandes puissances, par exemple, qui ont appuyé l'indépendance du Sud-Soudan, ne voulaient pas que le Soudan bascule dans la guerre civile. Donc, la guerre civile, elle est de la responsabilité des élites africaines, des classes politiques africaines et des Africains plus que d'eux. Et donc, moi, je crois que, je ne sais pas, vraiment, je suis pessimiste dans le sens où je ne vois pas de perspective pour une réelle prise de conscience, sauf ce qu'on voit peut-être aujourd'hui comme probable basculement planétaire au niveau de l'ordre mondial. Je ne sais pas si cet ordre mondial peut donner lieu à quelque chose.
Je voulais vous poser une question sur ça, parce que il y a quand même, si on prend les pays de l'Afrique francophone, membres de la zone franc CFA, le franc CFA, il est quand même un instrument de blocage de développement absolument phénoménal. C'est un instrument qui permet à la France de continuer à piller l'Afrique, au vu au sud de tout le monde, sous le soleil, sans même s'en cacher. Alors, actuellement, après, il y a un monde quand même multipolaire que la Russie et la Chine défendent et ils le défendent avec beaucoup de force actuellement. Au mois d'août, il y aura lors du sommet des pays des BRICS l'idée d'une monnaie commune ou peut-être de plusieurs monnaies communes qui seront discutées.
Et avec une monnaie numérique.
Voilà, et des possibilités de d'investissement massif dans le développement. Est-ce que vous pensez que justement l'Afrique justement pourrait avoir une chance dans cet ordre-là, mais encore faut-il qu'il soit décidé à la saisir, comme vous avez
dit. Voilà. Moi, juste, je vous informe que vous êtes à Moscou et que une délégation de l'ANC est arrivée à Moscou pour discuter de la préparation du sommet d'août en Afrique du Sud sur les BRICS.
Oui.
Donc, ça veut dire que les choses sont en train de bouger. Mais j'espère que, je veux dire, cette nouvelle opportunité d'un nouvel ordre mondial où, au moins, je veux dire, les capacités de nuisance ou d'exploitation et de pillage de l'Afrique par les multinationales, surtout occidentales, j'espère qu'elle ne sera pas remplacée par un pillage par les nouvelles puissances comme la Chine ou la Russie, j'espère. Donc, et ça ne dépend que des Africains, puisque nous avons quand même de grandes puissances africaines. Maintenant, nous avons l'Algérie, nous avons, je veux dire, l'Afrique du Sud, nous avons en partie le Nigeria, nous avons l'Éthiopie, nous avons le Kenya, quand même qui sont le Congo, la RDC, quand même qui sont de grandes puissances au niveau des ressources, mais qui n'ont pas aujourd'hui, je veux dire, les moyens au moins de contrôler leur destin et de contrôler leurs ressources. Si ce basculement de l'ordre mondial que nous souhaitons abouti à, je veux dire, à une prise en main du destin de l'Afrique, peut-être que ça ne sera pas dans 10 ans, ça ne sera pas dans 20 ans, peut-être dans 3-4 décennies, peut-être arrivera-t-on un jour où nous allons voir les flux migratoires s'inverser dans le sens où les Africains vont trouver sur place les moyens de survivre et de bien vivre même par rapport à aujourd'hui où nous sommes dans une situation où nous essayons de rentrer, nous sommes aux portes des pays riches alors que ces pays riches sont déjà en déclin.
Et justement, de ce point de vue, Monsieur Boubakri, les pays nord-africains, par exemple, l'Algérie, la Tunisie, le Maroc, ont une très grande communauté émigrée, notamment en Europe, mais aussi en Amérique du Nord, et généralement qui a une formation très élevée, parce qu'il y a beaucoup d'étudiants qui partent chaque année pour faire des études. Est-ce que, justement, cet ordre mondial, si la volonté politique suit, les pays africains et nord-africains ne pourraient-ils pas, c'est-à-dire inciter un retour de ces élites et pour faire en sorte que le pays puisse sortir du sous-développement en s'appuyant sur ses propres enfants?
Peut-être vous le savez, mais vous savez-vous que au niveau de l'Union africaine, il y a 5 régions économiques, ce qu'on appelle communauté économique régionale,
oui.
Vous savez. Et la 6e région, c'est la diaspora africaine à l'étranger. L'Union africaine considère que les diasporas africaines forment une communauté économique à elles seules.
Absolument.
Donc, au niveau de l'Union africaine, ils sont conscients de ça. Et moi, je ne dirais pas qu'il faut qu'il y ait retour, non. Qu'il y ait mobilité, qu'il y a contribution au
développement. Absolument, c'est ce
parce
que je voulais dire.
Parce que là où ils sont, voilà, là où ils sont, il faut qu'ils restent. Il faut que peut-être petit à petit, ils contribuent à peser sur les politiques internes des pays où ils sont de destination pour justement, en quelque sorte, protéger ou promouvoir les intérêts de leur pays d'origine ou de leur continent. Dans un contexte de prospérité, d'échange et de paix, ça peut jouer. Ça peut jouer. Mais aujourd'hui, bon, il ne faut pas trop se leurrer. Au jour d'aujourd'hui, moi j'ai fait une étude dernièrement sur... j'ai lu une étude de l'OCDE. Quand même, avec le recul historique, les diasporas marocaines, algériennes et tunisiennes restent dominées par des gens qui sont très peu éduqués. Je veux dire, la relève n'est pas encore... Peut-être il faut attendre 10 ans que l'ascension sociale des communautés d'origine nord-africaine, par exemple, aboutira à ce que les nouvelles générations soient beaucoup plus compétentes, plus éduquées et formées, je veux dire, par rapport à leurs parents, aux générations...
Les premières générations d'immigrés.
Voilà. Et deuxièmement, il y a une alimentation par les arrivées des compétences algériennes qui viennent d'Afrique du Nord, parce qu'ils ne trouvent pas, justement, comme la diaspora africaine, ils ne trouvent pas les conditions, les opportunités pour se développer, donc ils arrivent en Afrique. Donc
c'est une question, moi-même me trouvant à l'étranger, c'est une question qu'on se pose tous. C'est-à-dire que la communauté immigrée, justement, soulève ce problème à chaque fois. Mais pourquoi pas ne pas poser la question de créer les moyens? Il faut les créer. Il ne faut pas juste attendre ce qu'ils soient...
Non, mais au moins, je veux dire, au moins les créer pour ceux qui ne sont pas encore partis. C'est ça. Les créer, c'est, je veux dire, parce qu'on le voit... je veux dire, l'autre jour, par exemple, j'ai participé à une émission avec le ministère de la Santé sur la fuite des cerveaux, c'est-à-dire le départ des médecins. Partout, en Algérie, au Maroc, en Afrique, en Tunisie. Et il y a trois ingrédients qui alimentent cet exode. Un, c'est les salaires et les revenus qui restent très bas. Deux, c'est les conditions de travail et de promotion, c'est vraiment les laboratoires, les moyens. Et troisièmement, c'est aussi les relations professionnelles. Les relations professionnelles restent très paternalistes entre je veux dire les médecins seniors, etc. Donc, s'il y a réforme, il faut réformer à trois niveaux. Au niveau des revenus, au niveau des conditions d'épanouissement scientifique de ces compétences, et troisièmement, au niveau, je veux dire, d'un épanouissement professionnel, dans le sens où il ne faut pas que les je veux dire, les seniors bloquent la promotion des juniors. C'est ça. Si on veut vraiment traiter cette question de départ des migrants. Mais quand même, en gros, on peut dire que l'élément fondamental, c'est la différence de revenus entre les médecins ou les ingénieurs qui partent en Europe et ceux qui restent dans leur propre pays où leur salaire ne représente même pas le cinquième de ce qu'ils peuvent gagner en Europe. C'est ça.
D'accord. Et dans le cadre d'organisation régionale, prenons l'exemple, par exemple, les pays maghrébins. Donc, il y a des pays qui ont des ressources financières énormes comme l'Algérie. Il y a d'autres pays moins, mais il y a la ressource humaine qui est très importante. Par exemple, le cas de la Tunisie, j'en ai connu beaucoup moi-même en Europe. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un travail, en plus du travail qui doit être fait individuellement et de manière endogène pour chaque pays, il n'y a pas quelque chose qu'on pourrait faire ensemble en coopération opérant sur des domaines différents pour justement faire en sorte que les choses bougent et que ce pont de coopération avec la diaspora à l'étranger puisse s'établir très vite.
Vous soulevez une question qui est liée au cadre à partir duquel on est parti, qui est la question migratoire.
Absolument.
Je veux dire, les pays d'Afrique du Nord, du Maghreb donc, surtout, discutent de manière individuelle avec les Européens, alors que les Européens discutent de manière collective.
Collective.
Nous ouais. avons la Commission européenne, nous avons l'Union européenne, nous avons les commissaires européens, et nous, parfois nous sommes sous double pression. La pression de la Commission avec ses commissaires et la pression des États membres de l'Union européenne. Alors que nous, on discute individuellement. Donc, je veux dire, peut-être l'espoir, c'est du côté des élites, des nouvelles générations éduquées, pour que justement, comme en Afrique, comme au sud du Sahara, pour qu'elles prennent ou comprennent qu'il faudrait une liberté de la décision au niveau national et la prise en charge ou en main de notre destin. Ce n'est pas des mots qui sont dans l'air, je crois que c'est une question de volonté politique et générationnel par rapport à ça.
D'accord. Dernière question, Monsieur Boubakri. Concrètement, que doivent faire les pays nord-africains ou subsahariens, justement, pour pallier à ces problèmes d'assainissement de la vie publique, de la dépréciation de la valeur des diplômes, l'inadéquation entre la formation et les emplois, la mauvaise gouvernance, la pauvreté, les salaires bas? Quel plan, quelle solution préconisez-vous?
Nous gardons, je veux dire, les causes du sous-développement ou du mal-développement, comme en Afrique. Tant, parce que, comme je l'ai dit, ce diagnostic, il a été fait depuis les années 90 et surtout depuis les années, clairement depuis les années 2000, c'est-à-dire à partir de l'année 2000. Et pourtant, on n'est pas plus, on a autant toujours de chômage, on a autant de corruption, même, regardez la Tunisie. Je veux dire, qui était, on disait que, je veux dire, la classe politique, le régime de Ben Ali était corrompu, mais après 2011, la corruption a touché et a continué à toucher de plus larges pans de la société.
Absolument.
Toute la société est devenue corrompue.
C'est ce qu'on appelle donc, une démocratisation. C'est comme une démocratisation de la corruption, exactement comme dans le pays voisin à côté en Algérie.
Voilà. Voilà, donc c'est pour vous dire, je veux dire que c'est pour ça, moi, quand on a commencé l'interview, j'ai dit une partie des facteurs structurels de la migration irrégulière des Maghrébins, des Tunisiens ou des Algériens est liée à notre manière, à notre la gouvernance, la mauvaise gouvernance politique et économique chez nous. Si on dit que les migrants irréguliers, quand ils partent, ils votent par les pieds, on dit, parce qu'ils ne veulent plus rester. Donc c'est une manière, je veux dire, de punir les classes dirigeantes quand on parle de manière irrégulière, parce qu'on n'a plus d'opportunités, on n'a plus de confiance dans le pays. Donc je crois qu'on ne peut pas chercher à créer la roue, comme on dit. Il faudrait tout simplement, mettre en place les conditions d'une transparence de la vie publique, une démocratisation, une tolérance et une capacité de respecter les lois dans tous les pays. Je veux dire, ça, c'est les conditions pour que la vie politique soit assainie. L'assainissement de la vie politique aboutira à un assainissement de l'investissement et de la vie économique, et c'est comme ça que, petit à petit, les richesses sont créées, les emplois sont créés, parce qu'il y a un retour de la confiance. Sans ça, on restera aussi bien au nord du Sahara qu'au sud du Sahara, on restera sur ce diagnostic un peu de désenchantement. 70 ans après les indépendances, il ne faut pas oublier. On est bientôt à cette décennie des indépendances. Il ne faut pas continuer à se cacher derrière les prétextes de l'impérialisme, de la domination. Oui, il faut les combattre, mais je suis sûr que l'impérialisme et la domination et le néocolonialisme ne peuvent être combattus que par un assainissement de la vie publique chez nous. À partir de là, ils ne peuvent plus trouver la clientèle nécessaire pour justement imposer leur domination et le pillage. Voilà.
Et des exemples existent. La Chine, l'Inde, c'est des pays du tiers-monde qui ont émergé et qui deviennent des puissances qui imposent et imposent leur mot actuellement. Une dernière question, Monsieur Boubakri. Cette vague migratoire qui a frappé la Tunisie dernièrement et l'Algérie, quelles sont ses causes rapidement et est-ce que ça s'est atténué un peu?
Il y a eu
des vagues de migrants subsahariens qui sont beaucoup, qui sont arrivés en Tunisie. Ça fait quelques semaines déjà, avec la polémique qu'on a attribuée au président de la République d'être raciste dans ses propos et tout. Et donc, en Algérie aussi, on avait la même chose. Donc, qu'est-ce qui a provoqué ça rapidement et est-ce que ça s'est atténué un peu?
Quand le président a parlé d'un remplacement de la population, il s'est mal exprimé parce qu'en fait, il aurait pu dire qu'il y a de plus en plus de subsahariens, c'est vrai. Parce que nous avons constaté que ces derniers mois, il y avait beaucoup de subsahariens qui sont restés en Tunisie. C'est pour ça, tout à l'heure, quand on a commencé à parler, on a dit une prison ouverte aussi bien pour les Tunisiens que pour les subsahariens. Pourquoi? Parce que le nombre de subsahariens a augmenté en Tunisie, peut-être en Libye, en Algérie aussi, parce qu'ils ne peuvent plus partir de l'autre côté. Donc, il y a une partie des gens qui partent, qui traversent la Méditerranée, mais après, ils sont interceptés, ils sont retournés, vers les pays d'origine, vers la Tunisie dans ce cas-là. Par exemple, si je prends le cas en 2022 pour la Tunisie, il y a eu 30 000 de personnes interceptées, donc des opérations qui ont été échouées par les forces de l'ordre, par la garde maritime et la marine nationale. La moitié sont des Tunisiens et la moitié sont des subsahariens. Les Tunisiens, ils sont enquêtés, après ils rentrent chez eux. Les subsahariens, ils vont rester en Tunisie. Et maintenant, les choses se sont un peu calmées parce que même les autorités, la police passe dans les rues et dit qu'il ne faut pas toucher aux subsahariens. Et toute personne, tout abus sera puni en quelque sorte si jamais les subsahariens sont touchés. Donc les choses se calment, disons.
D'accord. Je vous remercie beaucoup. Et chers auditeurs, notre entretien arrive à sa fin. Et professeur Hassan Boubakri, je vous remercie pour cette interview passionnante et riche en informations.
Je rappelle que mon invité est aujourd'hui Hassan Boubekri, professeur de géographie et des études de migration à l'université de Sousse en Tunisie et président de l'ONG Centre de Tunis pour la migration et l'asile. Ainsi s'achève cette édition de notre émission L'Afrique en marche, proposée par Radio Spoutnik Afrique en partenariat avec Radio Maliba FM à Bamako. Je suis Kamal Louadj, merci de nous avoir suivis. Tout en espérant avoir été à la hauteur de vos attentes, chers amis, je vous retrouverai très bientôt pour une autre émission. D'ici là, portez-vous bien.
L'Afrique en marche, une émission présentée par Spoutnik Afrique.